BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Et bienvenue à tous jusqu'à 18h, tous les moments clés de la séance. Le CAC 40 est en hausse de quasiment 0,5%. Aujourd'hui, parmi les valeurs à ne pas rater sur le marché parisien, Renault est également à suivre en Europe. Par exemple, Novartis qui relève ses prévisions et qui progresse bien. Ce titre Novartis de plus de 5%, on va en parler. Puis SAP aussi qui a publié et c'est une hausse pour SAP grâce aux activités cloud, une hausse de plus de 3%. On va en parler hein, bien sûr de l'accélération des publications en Europe. Mais d'abord, Wall Street est en train d'ouvrir. 9h32 aux États-Unis. Et la cloche qui retentit. Ils sont là, nos experts de USA Today. John Plassard, bonjour John, depuis les bureaux de Mirabeau. Et Aude Kersulec, depuis la Tour Euronext. Bonjour Aude, ravi aussi de vous retrouver. Comment Wall Street se réveille-t-il ?
Eh bien, hausse pour la deuxième séance consécutive pour une semaine pleine d'optimisme, hein, des éléments bien différents de la semaine passée. On a le Dow Jones qui prend 0,27%, 38 341 points. Le S&P 500 plus 0,47% à 5 033 points. Et le Nasdaq qui monte encore un peu plus 0,58% à 15 541 points. C'est vrai qu'hier, on était dans le vert. La tentative de rebond a été couronnée de succès. Le Nasdaq prenait plus de 1% et le S&P terminé aussi dans le vert après 6 séances dans le rouge avec de gros moteurs hein. Aujourd'hui les résultats d'entreprise, évidemment on va en parler hein, avec John, mais il y a Spotify ou General Motors et puis sur les autres marchés le pétrole ne monte pas mais les taux obligataires non plus ne descendent pas, donc attention quand même à cet indicateur. On est à 4,64% pour le 10 ans américain et puis l'euro dollar vaut 1,0671.
Effectivement, la bonne nouvelle c'est que depuis le début de la semaine quand même on tente à vouloir rebondir sur le marché américain après avoir enchaîné les replis. La question c'est de savoir si ce rebond peut durer. Mais non, en tout cas d'après le gourou de JP Morgan, Marco Kolanovic, non, ce rebond n'est pas amené à durer. C'est la correction de Wall Street qui devrait durer et se prolonger, John.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très écouté, sur, en tout cas aux États-Unis. Et en fait, il dit que, dans une note qu'il a publiée aujourd'hui, que le scénario commence de plus en plus à ressembler à ce qui s'était passé l'été passé, où on avait des surprises sur l'inflation et on avait aussi un discours de plus en plus hawkish, faucon, de la réserve fédérale américaine. Aujourd'hui, Kolanovic est préoccupé par la complaisance des valorisation des actions, le fait que l'inflation ne baisse plus et puis aussi le fait que de plus en plus de personnes commencent à parler de ce no landing, voire, et on en a parlé Guillaume ensemble, de ce take-off, c'est-à-dire une prochaine hausse des taux. Et ce qui est très intéressant de regarder et d'écouter, c'est que vous avez aussi le gourou de Goldman Sachs, quasiment en même temps, qui a dit que la semaine prochaine, tenez-vous bien Guillaume, les CTA, vous savez, c'est ces ordinateurs qui travaillent sur le momentum, eh bien, devraient vendre les marchés quoi qu'il arrive. Donc, un message commun entre JP Morgan et Goldman Sachs sur ce rebond qu'on a actuellement.
Effectivement, donc beaucoup de prudence sur le potentiel de Wall Street. Une correction de la semaine dernière qui, certes, se calme en début de semaine, mais qui, cette correction, pourrait reprendre d'après les grands stratèges. Aude, d'autant que la pression obligataire reste là. Vous nous le disiez à l'instant, le 10 ans américain continue de monter, Aude. 4,64 cet après-midi à Wall Street.
Oui, et John, vous nous parliez du take-off. Hein. Eh bien, on a 20% maintenant des investisseurs qui pensent que la Réserve fédérale peut monter ses taux dans les 12 prochains mois. Mais alors, j'écoutais un expert avisé ce midi, John, qui disait qu'une nouvelle hausse de taux, ce ne serait pas forcément mauvais pour les actions.
Non, tout à fait, exactement. Ben, tenez-vous bien que sur 10 des 11 dernières hausses de taux du cycle de hausse de taux, eh bien, 6 mois après, le S&P 500, tenez-vous bien, Aude, était en hausse. Alors évidemment, il faut changer les actifs. Évidemment, les obligations, si on devait avoir une hausse de taux, eh bien, les obligations seraient à risque. Évidemment, les sociétés qui sont les plus endettées seraient à risque aussi. Et finalement, la technologie, tenez-vous bien, le secteur de la technologie qui a baissé la semaine passée aux États-Unis pourrait aussi être à risque. Donc, pas de risque sur le S&P 500, mais potentiellement sur un changement de gouvernance au niveau des secteurs.
On va parler justement des secteurs et des valeurs. Dans un instant, on accélère dans la saison de publication et Tesla va annoncer ses résultats ce soir. On va en parler. Mais d'abord, la présidentielle américaine. On est à moins de 200 jours maintenant du scrutin. qui aura lieu le 5 novembre prochain. Et ce nouveau sondage, John, on verra qui va gagner, Joe Biden, Donald Trump, on verra bien. Mais dans les sondages, Donald Trump continue de gagner en popularité dans des couches de la population assez inattendues.
Tout à fait. On a parlé de la population hispanique, on a aussi parlé de la population afro-américaine. Eh bien, tenez-vous bien, la communauté LGBTQ+, aux États-Unis, est de moins en moins satisfaite avec ce qu'est en train de faire Joe Biden. Vous avez 70% de cette communauté qui s'identifie comme démocrate, qui souhaite que le Parti démocrate fasse beaucoup plus pour les transsexuels notamment et les homosexuels américains. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que dans le sondage, on voit que leur préoccupation est aussi au niveau de l'inflation et de l'économie. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de cette communauté qui commence à voter Donald Trump. Et on imagine que si Trump pouvait rallier, si ce n'est qu'un quart de cette communauté, eh bien, ça pourrait tout changer au vote final. Donc, on l'avait dit, les Hispaniques votent de plus en plus pour Trump, les Afro-Américains et les jeunes aussi, mais maintenant aussi la communauté LGBT+Q.
Cette campagne électorale qu'on suit au quotidien grâce à vous, John, USA Today, sur BFM Business et dans BFM Bourse chaque après-midi. Wall Street a donc ouvert dans le vert. On est à quoi ? 8 minutes de cotation désormais sur le marché américain. Les trois indices progressent, le S&P 500 notamment gagne 0,5%. Mais donc, Aude, on entre dans le vif du sujet désormais. Les 7 magnifiques vont commencer à publier leurs résultats ce soir.
Et on commence par Tesla. Tesla donc, qui publie après clôture le titre. Pour le moment, il baisse très légèrement, moins 0,2%. Prudence absolue des investisseurs sur cette publication qui ne devrait pas être forcément très bonne. John, on attend notamment une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière et une baisse des livraisons. Ce serait une première et ça ne va pas forcément de pair avec la guerre des prix qu'a lancé Elon Musk.
Exactement. Alors, les analystes l'appellent le pire trimestre pour Tesla depuis plusieurs années. Il faut rappeler ici qu'on a eu des livraisons en dessous des attentes au premier trimestre qui sont connues en termes de nombre de voitures. On a eu un rappel de 4000 Cybertruck. On a un potentiel changement dans le modèle à bas coût, modèle 2 de Tesla. Et puis aussi l'annonce d'un robot taxi qui n'a rien à voir avec, comme vous l'avez dit, la baisse des ventes et la baisse des marges de Tesla. Donc Elon Musk, va devoir calmer les nerfs des investisseurs qui ont connu énormément de volatilité ces derniers temps. Et il faut rappeler une chose, c'est que ce trimestre va être marqué par la fermeture d'usines en Allemagne et la faiblesse de demande en Chine. Donc on devrait avoir une contre-performance ici, mais c'est attendu par le consensus. Il faut juste rappeler une chose, une statistique très intéressante, Aude, c'est que la dernière fois que Tesla a baissé 7 séances de suite, c'était en 2018 et en 2022, eh bien, on a eu un très très fort rebond juste après. Donc, à regarder ce soir, potentiellement, tout le monde est noir sur la valeur. Eh bien, on pourra avoir une surprise.
À suivre Tesla ce soir. En attendant, la question que tout le monde se pose, c'est dans la mesure où Tesla connaît désormais des difficultés, est-ce qu'il vaut mieux pas privilégier d'autres constructeurs ? Et pourquoi pas GM, qui a présenté, là, c'était il y a à peu près une heure et demie, ses résultats, relève ses prévisions. Même GM, le titre gagne 3,5%. John, entre GM, après cette belle publication, et Tesla, à vos yeux, l'avenir appartient à laquelle de ces valeurs ?
Bah écoutez, pour l'instant, c'est General Motors, bien évidemment, un bénéfice par action en hausse de 18,6% sur un an, un chiffre d'affaires qui atteint 43 milliards de dollars au lieu de 41,8 milliards attendus. On est dans une situation où General Motors relève ses attentes pour le deuxième trimestre et surtout parie sur un retour des profits en Chine au deuxième trimestre. Donc on voit que General Motors a le vent en poupe, contrairement à Tesla. Et bien évidemment, Guillaume, c'est salué en bourse.
Effectivement, donc General Motors à suivre aujourd'hui. La valeur du jour à Wall Street avant Tesla ce soir, General Motors gagne 3,5%. Et puis Apple aussi à surveiller. Là, pour le coup, c'est la douche froide pour Apple, pour le coup en Chine.
Oui, c'est vrai. On vient de parler d'une des sept magnifiques Tesla qui n'était pas très en forme et on interdit la publication. Et d'ailleurs, Tesla qui ne fait pas partie, qui ne fait plus partie pour certains de ce club très fermé. Apple, n'est pas franchement plus en forme avec cette nouvelle sur les chiffres de vente des smartphones en Chine qui viennent de tomber. C'est quand même de mauvais augure pour la publication d'Apple, John.
Tout à fait, des ventes d'Apple au premier trimestre en chute, tenez-vous bien, de 19,1% en glissement annuel, alors que, tenez-vous bien, pour exactement la même période, Huawei, c'est plus 69,7% dans un marché, tenez-vous bien, où vous avez les smartphones, la vente de smartphones qui a augmenté de 1,5%. Pour Apple, c'est le pire trimestre en Chine depuis 2020. Donc on voit ici que la tendance est en train de s'inverser. Et juste pour l'information, il faut savoir que les smartphones les plus vendus en Chine, sont Vivo, suivi de Honor et Apple, mais Apple, bien évidemment, est en décroissance.
Effectivement, pas de réaction du titre Apple, il est quasi stable aujourd'hui dans un marché américain bien orienté. Merci beaucoup John Plassard depuis Mirabeau, USA Today. Et à demain, on le connaîtra demain dans USA Today les résultats de Tesla et on parlera aussi de ceux de Meta qui sont attendus demain soir. Aude Kersulek nous accompagne aussi, bien sûr Aude, à tout de suite depuis la Tour Euronext, alors qu'à Paris, pas de jaloux, on est dans le vert, nous aussi, Wall Street a ouvert dans le vert, c'est le cas aussi à Paris. Depuis ce matin, on est bien orienté. Ça continue, plus 0,6% cet après-midi. 8087 points pour le CAC 40. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles, vous savez désormais comment nous les adresser, parce qu'on y répond chaque jour dans Culture Bourse. Dans quelques minutes, Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondront. Vous pouvez nous adresser donc vos questions en flashant, en scannant le QR code qui apparaît en direct sur vos écrans. Si vous nous suivez à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi de la télévision. Et puis aussi par mail, vos questions, on les attend à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Un peu plus de 15h40, la bourse cash. Émeric Didet nous rejoint. Bonjour Émeric.
Bonjour Guillaume.
Directeur de la gestion de Pergam. Vous venez, Émeric, dire leurs quatre vérités au marché. Est-ce que vous êtes sûr ?
Je suis sûr.
Émeric, vous venez aujourd'hui nous expliquer qu'il y a mieux que l'IA, mieux que l'intelligence artificielle en bourse. L'électricité, la thématique électricité est la meilleure thématique d'investissement aujourd'hui sur les marchés. Voilà le message que vous venez faire passer aux investisseurs. Vous l'assumez ?
Je l'assume totalement.
Mieux que l'IA, l'électricité s'impose comme la meilleure thématique d'investissement désormais en bourse. Et pourquoi donc ?
Mais parce que justement, quand on dit IA, on parle toujours de la même chose, toujours de valorisation plus excessive, d'innovation, de technologie. Mais c'est très américain tout ça. Et on a la chance en France de fabriquer les pelles et les pioches pour aller pour tout ce qui est IA et data center. Donc au final, on peut regarder aussi d'autres secteurs qui sont très liés à la croissance de l'IA et donc parler d'énergie, d'électricité, d'efficience énergétique. Alors là, c'est un thème qui est très connexe en fait avec celui justement de l'IA et qui aujourd'hui pour nous a un très très bel avenir, une belle prédictibilité également. Donc on peut parler aujourd'hui d'énergie parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui de consommation de toutes ces data centers, cette intelligence artificielle, c'est gigantesque. Ce sont des chiffres qui font extrêmement peur.
On peut ajouter le cloud aussi, qui a besoin d'électricité.
Cloud, évidemment, qui va avec. Mmh. Parce que quand on regarde aujourd'hui entre 2022 et 2026, il va falloir ajouter quasiment la consommation électrique d'un pays comme la Suède, voire pour certaines prévisions d'un pays comme l'Allemagne, en termes de capacité électrique. Donc c'est des chiffres qui font froid dans le dos. Il faut aussi se rendre compte que la part aujourd'hui qui est consommée de l'électricité par cette typologie de technologie, c'est que 4% de l'énergie aujourd'hui. Or, avec les croissances qu'on a aujourd'hui, à la fin de la décennie, ça risque d'être 20 à 25% de la consommation d'énergie.
Le cloud et l'IA représenteraient 20 à 25%.
Le cloud, tous ces data centers, c'est colossal. Et regardez ce qu'a fait Amazon. Ça, c'est très intéressant. Amazon qui construit un immense data center aux États-Unis, il le construit à côté d'une centrale, d'une centrale nucléaire, évidemment le côté énergie propre et surtout la centrale nucléaire s'est construite avec justement des terrains destinés à l'industrie et aux technologies parce que justement il fallait ces industries ont besoin de sécuriser leur énergie pour leur business. Donc c'est très
donc Amazon s'installe à côté de cette centrale nucléaire.
Exactement.
Oh là là.
Sur des centrales qui il y a 10 ans un data center ça consommait à peu près 10 mégawatts. Aujourd'hui on parle de 1000 mégawatts. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes typologies de consommation d'énergie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur? Parce que l'investisseur qui veut aller sur l'IA ou sur les data centers ou sur le cloud, il va aller aux États-Unis. Il va aller investir dans les grandes valeurs américaines, les Microsoft, les Amazon et compagnie. Mais l'investisseur européen, il a un peu moins de choix. Donc lui, il peut aller chercher certains leaders qu'on a la chance d'avoir en Europe. Dans les équipementiers, on peut parler par exemple de Schneider, ou bien de Legrand, ou bien d'ABB ou de Siemens. C'est tout des entreprises européennes qui sont spécialisées dans cette thématique de l'énergie. Alors on nous a enlevé EDF de la cote, c'est clair, mais c'est pas grave. Il y en a des entreprises qui sont bien mieux gérées et avec un potentiel de croissance qui est extrêmement important. Et puis si on veut chercher des petites valeurs qui sont un tout petit peu liées aussi, on peut aller chercher quelques distributeurs comme Rexel qui font partie des entreprises qui peuvent bénéficier en tout cas de cette croissance sur l'énergie et l'efficience énergétique qui sont en tout cas un sujet dont la prédictibilité de croissance semble quand même assez nette.
Oui, effectivement, investir donc en bourse dans cette thématique électricité, en amont, encore en amont du cloud et de l'IA, effectivement. Voilà, on parle régulièrement aussi des fabricants semi-conducteurs, mais en amont l'IA, il n'y a pas que les fabricants de semi-conducteurs, il y a aussi tout simplement les acteurs de l'électricité.
Oui. Et c'est beaucoup moins cher que justement ces thématiques de l'IA ou des semi-conducteurs.
Bon, ben voilà une idée. Vous avez cité quelques valeurs qui peuvent effectivement être intéressantes pour les auditeurs et téléspectateurs. Aude Kersulek nous accompagne, la Tour Euronext, 15h47 pour le suivi de cette séance. On a ouvert dans le vert, Aude, à New York, et on n'est pas en reste en Europe. On reste bien orienté aussi aujourd'hui. Cet après-midi encore, le CAC est dans le vert.
On continue de monter, hein, plus 0,6% à Paris, 8088 points, un petit peu plus, et on touchera les 8100 points. Et il y a quand même aussi un indice qui est en forme, hein, c'est l'indice londonien qui a battu ce matin un record. Alors hier, on avait déjà battu un record de clôture. Ce matin, c'était un record en séance pour le FTSE 600. On a tapé les 8067 points. Donc voilà, on est très en forme. On monte aussi sur à peu près tous les indices européens.
Aude, vous nous rappelez bien sûr dès que la séance le mérite, bien sûr les variations de séance, la priorité au direct dans BFM Bourse bien évidemment. Et sur nos réseaux sociaux, cette question qu'on vous pose, vous tous qui nous suivez, sur notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, vous pouvez vous y abonner. Ce soir, deux fleurs fanées du marché publient leurs résultats. Tesla après la clôture de Wall Street et Kering après la clôture de la Bourse de Paris. Tesla et Kering après Bourse. Laquelle de ces deux fleurs fanées du marché pourrait continuer de décevoir durablement à vos yeux? Est-ce que ce sera plutôt Tesla qui sera amené à structurellement décevoir désormais ou plutôt Kering? Vous êtes nombreux à voter. S'il fallait en choisir une, laquelle de ces deux fleurs fanées devrait continuer de baisser la tête en bourse et décevoir durablement? Aymeric.
C'est très dur parce qu'en fait, on a envie de dire ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Parce que Tesla aujourd'hui, c'est quand même un leader incontesté. Ils ont aujourd'hui, certes, ils déçoivent, certes, ils ont lancé une guerre des prix. Les volumes sont en baisse. Ils ont une concurrence de la part notamment des autres acteurs et particulièrement des acteurs asiatiques sur lesquels il y a une pression très forte. Mais c'est une société capable d'innover de manière extrêmement importante. Et aujourd'hui, c'est devenu une société à part entière, un constructeur automobile à part entière. Alors qu'ils sont partis de zéro il n'y a pas si longtemps.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet Apple là, qui agit pour Tesla avec la concurrence effectivement des acteurs chinois? On voit qu'Apple dans les smartphones perd énormément de parts de marché désormais en Chine, qui est le premier marché mondial des smartphones. Est-ce que pour Tesla, avec la concurrence des constructeurs chinois de véhicules électriques, il n'y a pas un peu le même phénomène qui est en train désormais de se produire?
Sur la partie chinoise, sûrement, mais par contre sur le reste du monde, c'est pas sûr. Ouais. Donc, et puis demain, ils peuvent continuer à innover et c'est là où il y a un potentiel important, je pense, pour ce type d'acteurs qui aujourd'hui ont une place réelle dans le paysage de l'automobile.
Mais ils baissent leur prix, ça n'empêche pas les livraisons de baisser aussi. C'est mauvais cocktail. Là.
C'est le mauvais cocktail actuel. Ouais. C'est pour ça que.
C'est peut-être le point bas. Votre idée, c'est qu'on est déjà sur le point bas.
Aujourd'hui, la valorisation, elle a quand même été bien amochée en bourse. Mm-hmm. Quand on parle des 7 fantastiques, on les a maintenant, on en enlève beaucoup là-dedans. Et Tesla est évidemment le pire des acteurs là-dedans. Donc aujourd'hui, la valorisation, elle est peut-être aussi arrivée à un plancher. Et je serais pas étonné qu'on ait peut-être ce soir une surprise un peu, ou en tout cas que ce ne soit pas plus mauvais qu'anticipé.
Tesla, après la clôture de Wall Street, je vous vois plus prompt à défendre Tesla et son potentiel qu'à défendre celui de Kering, une autre fleur fanée du marché. Est-ce que Kering va pouvoir repartir vraiment de l'avant après des mois et des trimestres de sous-performance?
Alors, Kering a un bijou qui s'appelle Gucci, et en fait c'est lui qui donne toute la tendance. Et donc demain, s'ils arrivent à remettre de la valeur, recréer de la valeur dans Gucci, comme l'ont fait toutes les grandes marques de luxe qui ont réussi à prendre des virages importants, Kering rebondira. Je sais pas de.
Il faudrait peut-être qu'ils arrivent à moins dépendre aussi de Gucci, non? Enfin,
c'est évident, aussi. C'est évident. Mais aujourd'hui, je pense que Kering est un groupe qui est bien géré aujourd'hui, une situation pérenne. Donc clairement, c'est un groupe dans lequel en plus on a une famille derrière, un alignement d'intérêts. Donc c'est aussi des facteurs clés de réussite sur le long terme. Donc il peut y avoir en effet de la déception de court terme, parce qu'en plus l'activité là aussi en Chine et en Asie est compliquée pour tous les fabricants, pour tous les acteurs du luxe. Mmh. Mais il n'empêche que ça reste quand même des fleurons nationaux et des sociétés qui sont encore une fois très bien gérées.
Kering ce soir après la clôture, évidemment, on vivra tout ça en direct sur BFM Business et dans BFM Bourse, la publication de Kering après celle la semaine dernière d'LVMH. Il y a un autre match qu'on voulait vous proposer pour investir dans... Alors, vous nous parliez de la thématique du cloud. Quitte à investir dans le cloud, est-ce qu'il vaut mieux le faire à travers un acteur des data centers comme OVH Cloud qui a publié ses résultats, ses prévisions, moins 16% aujourd'hui OVH Cloud, ou plutôt à travers les logiciels SAP qui, grâce au cloud, annonce de bons résultats, SAP gagne 4%. OVH perd 16%, SAP gagne 4%.
Alors, entre les deux, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. C'est SAP, évident. Ça l'a toujours été. OVH, malheureusement, a multiples problèmes. Et en plus, les concurrents américains sont, pour moi, 100 fois plus investissables qu'OVH. Donc là-dessus, il n'y a même pas photo. C'est pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Donc malheureusement, pour l'investisseur qui peut se permettre d'investir à l'international, on gère une SICAV sur le software. Donc on connaît ces enjeux. Et les enjeux au niveau américain, des grands acteurs américains, que ce soit dans les logiciels ou dans le cloud, ils sont très nettement mieux. Il est mieux pour l'investisseur d'aller aux États-Unis qu'en Europe.
Donc OVH à moins 16, ce n'est pas un point d'entrée, c'est votre message.
Ah non, pour le coup, on ne touche pas la valeur, malheureusement, mais il vaut mieux aller encore une fois aux États-Unis. Et SAP, on est content parce que SAP, finalement, la publication est bonne. Oui. On revient sur cette valeur. Là, pour le coup, elle est investissable. Et on sent qu'il y a eu quand même un virage qui a été bien pris il y a quelques années. Perspective, en tout cas, qui s'améliore de trimestre en trimestre. Donc, beaucoup plus solide. Ça fait partie des acteurs du paysage européen important dans lesquels on peut aller.
Plus 4,7% SAP là, après sa publication cet après-midi. Effectivement, l'une des valeurs marquantes de la séance en Europe. Merci beaucoup, Aymeric, de nous avoir accompagnés, d'avoir joué le jeu de la Bourse Cash comme régulièrement directeur de la gestion de Pergam, Aymeric Didet. Le CAC 40 est toujours en progression. Aujourd'hui, comme Wall Street, on gagne encore un peu de terrain, plus 0,5% en ce moment à la Bourse de Paris. Dans quelques minutes, valeur ajoutée, une idée de valeur en plus, si vous voulez compléter vos portefeuilles, on parlera d'une valeur small cap, peut-être bien positionnée pour profiter des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est In Extenso qui nous présentera sa pépite pour profiter du potentiel des Jeux Olympiques, une pépite boursière. Rendez-vous donc dans Valeur ajoutée à partir de 16h10.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Cette émission, c'est la vôtre et c'est la sienne. Julie Cohen-Horton nous accompagne. Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent chaque après-midi. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, maintenant vous connaissez le chemin. Si vous avez des questions pour structurer votre portefeuille d'investissement, vous empruntez le chemin de BFM Bourse à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien celui du QR code qui s'affiche sur votre écran si vous nous regardez à la télévision.
Aujourd'hui, une question sur les valeurs ESG, les valeurs éthiques et les groupes cotés qui permettent d'agir pour le traitement de l'eau. En l'occurrence.
C'est précis et c'est Denis qui nous a écrit. Denis, il veut savoir comment miser dessus en bourse et s'il vaut mieux investir dans une entreprise comme UV Germi ou bien dans Bio UV. On va tout savoir avec Cécile Aboulian pour In Extenso. Bonjour Cécile.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Cécile, quel regard vous portez sur ces deux titres dont les résultats annuels 2023 ont été plutôt contrastés ?
Alors, effectivement, la question peut se poser, parce que les deux sociétés sont positionnées sur le marché porteur de la désinfection de l'eau, et plus particulièrement la désinfection sans produits chimiques. C'est un marché qui est attendu en croissance, qui concentre beaucoup d'attentes avec les sujets de pénurie ou le plan eau lancé par le gouvernement en 2023. Néanmoins, BioUV et UV Germi ont une histoire et un positionnement différent. UV Germi, créée en 2010, est la plus jeune des deux. Elle affiche donc des métriques plus petites, avec un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, contre 40 millions d'euros pour BioUV, qui a été créé en 2000. la largeur de l'offre du Vergy pour l'assainissement d'eau aussi bien potable que usée par UV lui permet d'afficher, elle, une croissance organique de plus de 10% depuis 2016. Et BioUV, la différence, c'est qu'elle intervient sur d'autres segments, la désinfection des eaux de ballast, des eaux de piscine, avec une dame qui est technologique qui est plus large qu'UV Germi, technologie par UV, par ozone et électrolyse au sel.
Mais alors, du coup, Cécile, on est dans le concret, hein, dans Culture Bourse. Comment on travaille cette thématique en portefeuille et comment vous voyez ces deux titres ?
Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les deux sociétés se valorisent sur environ les mêmes niveaux de PE, de valorisation, environ 10 fois sur 2024 et 2025. Donc, il faut savoir ce qui va être un catalyseur, ce qui va constituer un catalyseur. Pour BioUV, elle a déjà procédé à des opérations de croissance externe. Donc, ça peut être un catalyseur puissant. Mais à court terme, je miserais sur la capacité d'UV Germi à afficher de la croissance organique. Les analystes attendent une croissance annuelle de chiffre d'affaires de 9% d'ici 2025 pour UV Germi contre 2% pour BioUV. Et compte tenu de la mise en place de son plan efficacité opérationnelle pour soutenir sa rentabilité et compte tenu de son niveau de trésorerie nette, on peut imaginer qu'elle aura des publications plutôt positives et on peut imaginer qu'elle souhaitera également procéder à des croissances externes.
Merci beaucoup Cécile. Cécile Aboulian qui nous accompagne régulièrement sur BFM Business et Culture Bourse chaque après-midi. Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent. Merci Julie.
Merci Guillaume.
Et à demain pour de nouvelles aventures. Le CAC 40 est en hausse, mais pas Renault. Renault recule après un super début d'année quand même. Renault recule aujourd'hui d'1%. On vous explique pourquoi dans cet article. Il a été publié là il y a quelques minutes sur bfmbourse.com et il est consultable. Renault, effectivement, parmi les replis marquants du jour, deuxième plus forte baisse du CAC cet après-midi. A tout de suite, on continue bien sûr de naviguer au cœur de cette séance jusqu'à 18h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.